Enseignement du jour.
Plus proche de l'Évangile.
Bienvenue aux rencontres de formation et d'édification spirituelle. Rencontres au cours desquelles des messages de foi, d'édification et de restauration spirituelle sont délivrés. Le message qui va suivre vous est offert par
la radio Espérance FM sur la 95.2.
Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez renouvelés dans votre manière de penser, de vivre et de comprendre les événements de votre vie. Ce renouvellement se fera par l'action de votre foi. La foi qui n'est pas active est inefficace, mais lorsqu'elle est active, les résultats sont inévitables. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez cet enseignement.
Cette semaine sainte, la dernière étape de notre carême, pour continuer nos méditations et voir comment mieux vivre notre foi chrétienne. Hier, nous avons médité sur les béatitudes. Heureux les doux, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui construisent la paix. Ce sont eux les enfants de Dieu, quelle que soit leur religion, leur ethnie. Pour approfondir cette question et voir un peu mieux comment vivre la paix en ces temps de carême, aujourd'hui nous voudrions méditer un peu sur la non-violence. Dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 5, des versets 38 à 42, Jésus nous apprend à lutter contre la violence. Et le temps de carême est justement le temps où nous vivons la paix, pas seulement personnellement, mais tous ensemble, et où nous construisons la paix dans notre société. Et Jésus nous montre des façons d'agir qui sont très importantes, que nous essayons de comprendre. D'abord, au temps de Moïse, Moïse avait donné un commandement, œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi de Moïse. Qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que Moïse voulait en donnant ce commandement, ou ce principe, œil pour œil, dent pour dent. Jusqu'au temps de Moïse, c'était la guerre sans fin et sans limite entre les hommes et les familles. Par exemple, si on avait tué quelqu'un d'une famille, celle-ci cherchait à se venger à tout prix. Et non pas en tuant quelqu'un d'autre dans l'autre famille, mais elle n'avait pas peur de tuer toute la famille de l'ennemi pour une seule personne qui était morte. Donc Moïse a voulu à tout prix limiter la vengeance en disant, si on te crève un œil dans ta famille, tu as le droit de crever seulement un œil chez ceux qui t'ont fait cela, mais pas plus. C'est pourquoi que l'on dit œil pour œil. ou aussi dent pour dent, si on t'a cassé une dent. C'était donc déjà un grand progrès pour limiter la méchanceté. Mais comme toujours, Jésus nous demande d'aller beaucoup plus loin et de vivre non pas dans la méchanceté, pas seulement limiter la méchanceté, mais vivre dans l'amour, et donc arrêter de se venger. Sinon, la méchanceté ne s'arrête pas. Au contraire, elle ne fait que grandir. C'est absolument nécessaire d'aimer et de pardonner si nous voulons vivre ensemble en paix. Nous devons tout faire pour arrêter la méchanceté, la guerre, mais aussi les bagarres entre nous, les insultes et toutes les formes de violence. Et donc, même si on nous fait du mal, ne pas chercher à nous venger, et même refuser absolument de nous venger. Parce que cela, d'abord, nous rend malheureux, nous n'avons plus la paix dans notre cœur, et que, en plus, cela entraîne une violence sans fin. Mais alors, il y a la question. Si nous-mêmes nous sommes attaqués et frappés, nous acceptons de ne pas frapper les autres. Mais si nous-mêmes nous sommes attaqués et frappés, qu'est-ce que nous allons faire? Jésus nous le dit dans cet évangile, « Quand quelqu'un te frappe sur la joue droite, montre-lui aussi ta joue gauche. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ces paroles sont souvent mal comprises. Cela ne veut pas dire se laisser faire, tout supporter, tout accepter sans rien dire. Au contraire, c'est lutter contre la méchanceté et chercher des moyens d'arrêter les coups. C'est réagir contre le mal qu'on te fait. Jésus ne dit pas « si on te frappe sur la joue droite, supporte », mais il dit « montre ta joue gauche ». Donc tu réagis en montrant ta joue gauche. Comment comprendre cela? Chez les Juifs, quand on frappait les gens, on frappait les gens avec le dos de la main, à revers. Jamais avec l'intérieur, avec la paume de la main. Donc si quelqu'un est en face de toi, tu peux le frapper sur la joue droite, avec le dos de ta main. Mais s'il te présente la joue gauche, tu ne peux pas le frapper du dos de la main. Il faudrait ou bien que tu retournes ta main, mais ça les Juifs ne le faisaient pas, ça serait une impureté, ou bien il faudrait que tu passes derrière lui, que tu te mettes derrière lui. Donc, présenter ta joue gauche, ce n'est pas pour qu'il te frappe aussi sur la joue gauche, c'est au contraire l'empêcher de te frapper. Parce qu'à ce moment-là, il ne peut pas te frapper avec le dos de la main comme on le faisait. C'est un moyen très efficace d'arrêter de te battre et d'empêcher l'autre surtout de te frapper. Un moyen très efficace, tu arrêtes l'autre, mais sans te battre toi-même, sans te venger, sans rendre le mal, simplement en l'empêchant de continuer à te frapper. Parce qu'il peut te frapper sur la joue droite, mais pas sur la joue gauche. Et ainsi, tu arrêtes sa méchanceté, mais d'une manière non violente, sans violence. C'est ce qu'on appelle la non-violence évangélique active. La non-violence, donc refuser la violence, la non-violence évangélique, comme Jésus nous le demande dans l'Évangile, la non-violence évangélique active, c'est-à-dire en agissant. Rappelons-nous, nous sommes dans la semaine sainte, ce que Jésus lui-même a fait quand on l'a arrêté. On l'amène au tribunal et on le frappe, juste avant sa mort. Il ne se met pas en colère, pourtant il aurait eu le droit. Il ne cherche pas à répondre, il ne cherche pas non plus à frapper à son tour celui qui l'a giflé. Mais il ne se contente pas de supporter, il résiste. Et Jean nous le dit au chapitre 18, au verset 22, Jésus dit à celui qui l'a frappé, « Si j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?» Et il dit cela. Et de même, quand on viendra l'arrêter, il dit, « C'est moi, Jésus, que vous êtes venu arrêter. » Mais est-ce que vous étiez obligé de prendre des épées et des bâtons pour vous venir m'arrêter comme si j'étais un voleur? Tous les jours, j'étais dans le temple à enseigner. Et quand Jésus dit ça, ils sont tellement étonnés et frappés pas par des coups, mais par la force de la parole de Jésus, qu'ils reculent et qu'ils tombent à terre. Et alors Jésus ajoute, « Si c'est moi que vous voulez arrêter, laissez partir mes apôtres. » Non seulement il réagit quand on vient l'arrêter, mais il protège ses apôtres pour que eux aussi ne soient pas frappés et qu'ils ne soient pas arrêtés. C'est toute la différence entre Jésus et Saint-Pierre. On nous dit que Saint-Pierre prend son coupe-coupe et il coupe l'oreille du serviteur Malchus. Et alors qu'est-ce que fait Jésus? Jésus lui dit « Range ton coupe-coupe ». Il refuse la violence, il refuse les coups de frapper, de blesser les autres. Range ton coupe-coupe, et Jésus explique, car tous ceux qui prennent l'épée mourront par l'épée. Est-ce que tu ne sais pas que je pourrais appeler mon Père au secours? Et aussitôt, il m'enverrait plus de 12 armées d'anges pour me protéger. Mais est-ce que je ne vais pas boire le verre de souffrance que le Père m'a donné? C'est dans Saint Jean, au chapitre 18, au verset 10, et dans Saint Matthieu, au chapitre 26, au verset 53. Nous retrouvons ça dans les récits de la passion, des souffrances et de la mort de Jésus que nous lisons cette semaine. Jésus refuse la violence, il refuse de se battre, il refuse de frapper, mais il défend ses apôtres et il accepte de porter la souffrance sans se venger pour arrêter le mal dans le monde, pour nous sauver, pas seulement nous sauver du péché, mais nous sauver de tout mal. Continuons cette réflexion sur la non-violence dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Au temps de Jésus, la Palestine était colonisée par les Romains. Et donc les soldats romains avaient le droit de forcer les personnes à porter leur bagage, qui était très lourd, mais seulement pendant 1 kilomètre, pour ne pas trop fatiguer les gens. Et au bout 1 kilomètre, ils cherchaient quelqu'un d'autre pour continuer à porter leur bagage. Comme on a forcé Simon de Cyrène à porter la croix de Jésus. Mais Jésus n'est pas d'accord que l'on force les gens, et encore moins qu'on les colonise, qu'on les fasse souffrir, qu'on profite d'eux. Alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il donne comme conseil? Il dit, si un soldat t'oblige à porter son bagage pendant 1 kilomètre, porte-le pendant 2 kilomètres. Donc Jésus ne dit pas, refuse, sinon tu vas te faire frapper, tu vas te faire arrêter, on te mettra en prison. Ne refuse pas, mais au contraire, au lieu de 1 kilomètre, porte-le pendant 2 kilomètres. Pourquoi cela? Parce que le soldat romain n'a le droit de te forcer que pendant 1 kilomètre. Si donc toi tu portes son bagage pendant 2 kilomètres, qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas voir ses chefs et tu vas l'accuser parce qu'il t'a demandé, il t'a fait faire plus que ce qui était permis. Et à ce moment-là, il sera puni. C'est donc de cette façon très intelligente que Jésus veut nous faire respecter nos droits, arrêter les gens de nous forcer, de nous faire souffrir. C'est une façon très efficace. Mais sans se battre, sans paroles violentes, sans insultes, sans résister, tu acceptes dans la paix. Être non violent, être doux, souffrir pour la justice, construire la paix, vivre les béatitudes, c'est être très intelligent, comme Jésus nous l'a montré dans l'Évangile. Encore une fois, c'est ce que l'on appelle la non-violence. La non-violence, ce n'est pas rester sans rien faire. C'est vaincre la peur. Ce n'est pas supporter, accepter les situations où on nous fait souffrir sans rien dire. C'est une non-violence active. Nous connaissons des gens qui ont vécu cette non-violence. Il y a des exemples célèbres, comme celui de Gandhi, qui a commencé à lutter contre la violence pour défendre les droits des Noirs en Afrique du Sud, et qui ensuite a obtenu l'indépendance de l'Inde, son propre pays, sans se battre, sans tuer les colons anglais ni les militaires anglais, par la non-violence, en supportant les coups, dans la paix, dans le pardon. Nous connaissons aussi l'exemple de Martin Luther King, qui a obtenu le respect des droits civiques des Noirs aux États-Unis. Là aussi sans se battre, sans tuer de gens, mais en défendant leurs droits, dans la paix, avec courage, avec force. Nous savons aussi que, par exemple, dans les Philippines, où il y avait un dictateur du nom de Marcos, c'est par la non-violence, en faisant simplement des manifestations, des marches pacifiques, et en particulier avec les chrétiens, mais surtout les religieuses. Lorsque Marcos a envoyé les chars pour les tuer, les religieuses se sont mises en premier rang, et elles se sont mises à genoux devant les chars, en récitant le chapelet. Elles savaient que c'était dangereux. On risquait de les tuer, bien sûr, comme on avait tué beaucoup d'autres personnes. Mais les militaires dans les chars, quand ils ont vu les sœurs à genoux, à réciter le chapelet, ils n'ont pas eu le courage de les tuer, de tirer sur elles. Et le dictateur Marcos est tombé. Il y a sans cesse des exemples d'actions non-violence, non-violentes, qui sont efficaces partout dans le monde. C'est important de nous tenir au courant, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Un autre exemple, c'est ce que Desmond Tutu a fait pour la paix et la réconciliation avec la fin de l'apartheid, à la suite et à l'exemple de Nelson Mandela. Nelson Mandela a fait tomber l'apartheid. Au début, il se battait. Il a laissé la violence, même quand il était en prison. Et il a réussi à construire un pays de paix. La non-violence est efficace pour changer les sociétés, pour résoudre les problèmes. C'est ce que l'évêque de Recife, au Brésil, a fait aussi. Elder Camara, pour défendre les Indiens traités injustement en Amazonie. Beaucoup d'autres évêques l'ont suivi au Brésil, mais aussi en Équateur, au Chili, en Amérique centrale. La non-violence vécue de cette façon-là a fait tomber des dictatures partout dans le monde, sans faire couler de sang. Par exemple, en Europe, en Pologne, avec Lech Walesa, avec le mouvement Solidarnosc, avec le mouvement People Power, le pouvoir du peuple, aux Philippines, en 1989. Et puis aussi les chrétiens en Allemagne de l'Est, pour faire tomber le communisme marxiste en 1990. Et aussi les églises écuméniques, les églises chrétiennes à Madagascar en 1991. Et également les moines bouddhistes au Cambodge. Et l'évêque, le cardinal Bo, en Birmanie, où en ce moment les militaires tuent plus de 100 civils qui manifestent pacifiquement en un seul jour. Le cardinal Bo continue à appeler à la non-violence, continuer les manifestations, mais sans tuer les militaires. Parce que si on prend les armes pour se battre avec eux, avec des armes, ils vont tuer encore plus de gens, et donc ça ne sera pas la solution. Ils chercheront à se venger, et une fois qu'ils auront tué les gens, ils feront tout pour garder le pouvoir, pour ne pas tomber, pour ne pas être condamnés. Partout dans le monde, la non-violence est à l'œuvre, parce que l'Esprit du Seigneur continue à travailler dans le cœur des hommes pour une paix véritable. Et nous aussi, nous savons bien que dans notre propre pays, il y a la violence, il y a des bagarres, il y a des méchancetés, ça commence par la violence dans les paroles, on insulte. Quand on a insulté, l'autre est en colère, il nous frappe. Si l'autre m'a frappé, je me défends. Je sors mon couteau et je le tue. Chaque jour, des gens se battent et des gens tuent leur ami. Même des maris qui tuent leur propre femme pour des problèmes. Il est important que l'on revienne à la non-violence. Il y a une dizaine d'années, dans les pays arabes, il y a eu ce que l'on a appelé le printemps en arabe. Cela n'a pas donné de résultats immédiats, ni de résultats complets. Mais les gens continuent à vouloir la paix. Ils ne se découragent pas. La non-violence, ça demande beaucoup de patience, beaucoup de temps. De même que l'on continue, que les populations continuent les efforts de paix, malgré la violence d'Israël contre la Palestine, les Juifs contre les Arabes, pas tous, certains Juifs, parce qu'il y a des Juifs qui luttent pour la paix, et des Juifs qui sont pour la non-violence, parce qu'ils ont compris que la violence ne sert à rien. En Syrie, après 10 ans de guerre où l'on tue les gens, il y a encore des femmes musulmanes et chrétiennes qui ne se découragent pas, qui continuent à lutter pour la paix, à se rencontrer, à se soutenir et à agir. Comment faire pour que les gens comprennent cela, pour que l'action descende jusqu'à la base, pour qu'elle soit pratiquée par le maximum de gens dans la vie de chaque jour? Il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau, mais c'est un appel très fort de l'Évangile. C'est cela, mettre en pratique les béatitudes. Parce que nous avons compris que ces violences, ces actions non violentes, peuvent apporter une paix véritable. Elles peuvent nous mettre dans une situation favorable pour trouver des vraies solutions à nos problèmes en agissant sur les causes profondes. Ce sont les actions non violentes, et ce sont seulement elles, qui permettent une réconciliation véritable. En effet, dans la non-violence active, on ne cherche pas à avoir raison, on ne cherche pas à vaincre l'adversaire. Au contraire, on l'accepte tel qu'il est, mais on cherche à le comprendre, on cherche à comprendre ses raisons, et on fait appel à son intelligence. On croit qu'il est capable de réfléchir, de se mettre en cause, c'est-à-dire de s'interroger sur son comportement et de changer de façon de faire. Et en même temps qu'on pousse l'autre à réfléchir pour qu'il arrête d'être violent, nous aussi, nous nous mettons en cause, nous nous interrogeons sur notre comportement et nous cherchons à avoir un meilleur comportement. Nous cherchons donc à nous convertir pour avancer ensemble. Et à ce moment-là, on peut arriver à une vraie réconciliation. Donc la non-violence, ce n'est pas seulement une technique, c'est une transformation intérieure profonde qui permet de reconnaître d'abord nos propres limites, nos propres violences, parce que tous nous sommes violents, au moins dans notre cœur. Pour lutter contre la violence de l'autre, je dois lutter contre la propre violence intérieure qu'il est dans mon cœur. Je dois chercher la sagesse. Cela déjà dans l'Ancien Testament, Qohélète nous le demandait au chapitre 9, au verset 16, quand il nous disait « La sagesse est meilleure que la force ». Même si on méprise la sagesse du pauvre et qu'on n'écoute pas ses paroles, sa sagesse est meilleure. Car les paroles pleines de douceur des sages finissent par être écoutées, plus que les cris pleins de folie des dirigeants, des forts et des puissants. La sagesse est meilleure que les armes de guerre. Mais malheureusement, un seul péché peut détruire beaucoup de choses. Un seul péché peut détruire beaucoup de choses. La violence peut détruire beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il nous faut, à tout prix, lutter contre toutes les formes de violence et vivre les béatitudes en vérité. Sans doute que nous sommes un peu étonnés par cet appel à la non-violence, parce que ce n'est pas ce que l'on fait autour de nous, ce n'est pas ce que l'on fait dans notre société, ce n'est pas ce que les gens disent, même pas nos responsables, surtout pas eux. Mais c'est ce que Jésus dit, « Heureux les doux, heureux ceux qui construisent la paix, heureux lorsque vous acceptez de souffrir pour la justice, si vous avez faim et soif de justice, heureux si on vous fait souffrir, qu'on vous persécute à cause de moi. » Jésus nous demande donc d'être non-violents. Essayons de comprendre comment vivre cette non-violence. En fait, il y a quatre étapes, quatre moments. La première chose, c'est de s'arrêter calmement. Ne pas chercher à se venger, mais d'abord regarder la situation en vérité. D'abord entrer dans notre cœur, nous dire qu'est-ce que nous voulons vraiment. Dans notre cœur, ce que nous voulons vraiment, c'est la paix. Et puis voir comment arriver à la paix. Et puis après être entré dans notre cœur, regarder l'autre. Mais regarder l'autre, pas pour voir sa méchanceté, pas pour voir sa violence, pas pour voir le mal qu'il veut faire, mais voir les bonnes choses qu'il fait. Parce que même les violents, même les méchants, ils font des bonnes choses. Par exemple, si tu es malade, ne dis pas à celui qui est venu te visiter, cela fait 15 jours que je suis malade et tu n'es même pas venu me voir jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, tu savais que j'étais malade. Mais au contraire, tu lui dis, il pleut, et toi tu habites loin, et quand même tu es venu me voir. Merci pour ta visite. Je vois les bonnes choses de l'autre, sans regarder sa violence pour le moment. Et quand je parle, je dis « je ne dis pas seulement « eux » ou « vous », mais surtout pas « on ». Je parle personnellement. La deuxième étape, j'appelle les choses par leur nom. Et d'abord, là aussi, je rentre dans mon cœur et je reconnais les sentiments qui m'habitent à ce moment-là. Pas seulement donc à partir de mes sentiments. Parce que les sentiments, ils vont m'envoyer la colère. La colère amène la violence. La violence amène la méchanceté. Et la méchanceté amène la vengeance. Je suis méchant, les autres vont être méchants contre moi. Et on ne s'en sort pas. Il y a trop souvent, les gens suivent leurs sentiments au lieu de rentrer dans leur cœur et de réfléchir. C'est ce que nous voyons en ce moment dans le pays. Au lieu de réfléchir au bien du pays, chacun est soit d'un côté, soit de l'autre. Et on accuse l'autre côté. On pense simplement avoir raison. Voir les sentiments, essayer d'avoir des bons sentiments. Par exemple, encore une fois, pour reprendre l'exemple, si je suis malade, si quelqu'un vient me visiter, je lui dis « Je suis très touché que tu fasses attention à moi. Cela me fait beaucoup de bien. Déjà, je me sens mieux. Merci. » Avoir des bons sentiments dans notre cœur. Changer les sentiments de notre cœur. Et puis, il faut reconnaître le besoin que j'ai qui est derrière. Qu'est-ce qui a fait naître mes sentiments pour pouvoir commander à mes sentiments? Et alors je dirai à celui qui me visite, si je suis malade, ta visite m'a fait comprendre que j'ai besoin d'être soutenu parce que je suis faible à cause de la maladie. C'est un moment difficile pour moi. Je me sens très seul. Je comprends d'où viennent mes sentiments pour voir les bonnes choses. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai compris les besoins que j'ai, je vais demander à l'autre de m'aider. Je ne vais pas chercher à me venger. Même s'il me fait du mal, je ne vais pas répondre au mal par le mal. Saint Paul disait, « Sois vainqueur du mal par le bien. Si tu es plus fort que le mal par le bien, c'est comme si tu mettais des cendres brûlantes, un feu sur la tête de ton frère, et à cause de son feu qui est sur sa tête, il va réfléchir et il va changer. Et donc à ce moment-là, je peux voir quelle action faire, mais une action qui a des chances de réussir, une action concrète, une action efficace. Je peux faire une proposition à l'autre, pas le forcer, pas me venger, pas lui donner un ordre, respecter sa liberté, mais lui proposer la paix au lieu de faire la guerre. Proposer la paix, c'est cela qui arrête l'agressivité, qui arrête la méchanceté. Et alors, le but de ma demande, ce n'est pas de me venger, ce n'est pas frapper l'autre, c'est demander calmement mon besoin, demander à l'autre de m'aimer. Parce que s'il m'aide, il va arrêter de me frapper, il va arrêter le mal. Pour garder le même exemple dont je parlais, en cas de maladie, je ne vais pas reprocher à l'autre d'avoir attendu 15 jours avant de venir me voir, avec des paroles de méchanceté. Au contraire, je lui demande mon besoin. Est-ce que tu pourrais pas venir me voir plus souvent, même si c'est seulement une heure, parce que j'ai besoin de toi. Quand il y a des violences, quand on se comprend pas, quand on s'attaque, c'est ça la plupart du temps qui nous manque. Des demandes. Nous attaquons l'autre au lieu de lui demander de nous aimer, au lieu de faire des demandes, mais des demandes concrètes, des demandes réalistes, des choses qu'il peut faire, des petites choses qui sont bonnes. Faire des demandes sans méchanceté, sans agressivité, dans la paix et dans la douceur. C'est ce qui me manque dans nos sociétés. Actuellement, nous voyons que les étudiants, les enseignants, les travailleurs, et puis aussi pour la politique, les gens, ils font des demandes. Et souvent, leurs demandes sont justes, c'est leur droit. Ils ont le droit de demander ça. Mais le problème, c'est qu'ils le demandent avec violence, avec méchanceté, et même souvent en frappant, en cassant. Et à ce moment-là, ça ne peut pas marcher. À ce moment-là, c'est la guerre, c'est la casse, c'est ce qu'on a vu. On casse, d'abord on lance des pierres, et après on nous tire dessus, après on brûle. On ne brûle pas seulement les magasins, on brûle même les mairies, même les écoles. Et ensuite, il n'y a plus de documents, il n'y a plus de dossiers scolaires, il n'y a plus d'actes de naissance. On a tout cassé, parce qu'on a pris la violence au lieu de chercher le dialogue, parce qu'on a frappé au lieu d'exprimer nos besoins calmement dans la paix. Il s'agit de voir le vrai bien. C'est vrai aussi dans la famille. Si tu penses que tes parents te traitent mal, qu'ils ne te restent pas, tu as le droit de le dire. Il faut même que tu le dises pour qu'il y ait plus de justice dans la famille. Mais tu le paies, tu le dis doucement, calmement, pas en attaquant, mais en faisant comprendre ta souffrance et en disant tes besoins. C'est aussi la même chose pour les travailleurs envers leur patron quand ils ont des demandes. C'est la même chose avec le maire, le conseil municipal ou le chef de quartier pour les problèmes qu'il y a dans le quartier. C'est cela, vivre les béatitudes en vérité et dans la paix. Le Seigneur nous appelle donc à la non-violence. Mais la condition, c'est d'apprendre à parler dans la paix, sans violence. Non seulement à respecter les autres, mais apprendre à nous respecter nous-mêmes, à être attentif à nos sentiments, à nos besoins. La non-violence évangélique active nous apprend à respecter l'autre, à ne pas voir sa méchanceté, sa colère, mais à voir ses besoins, pas les sentiments de mauvais, mais les bons sentiments qu'il a dans leur cœur, dans son cœur, les bonnes choses qu'il cherche, dépasser ses paroles et ses actions violentes. La non-violence nous apprend à partager nos idées, partager ce que nous pensons en profondeur. ne pas chercher à avoir raison. Si tu cherches toujours à avoir raison, il n'y aura pas la paix. Parce que quand il y a un problème, généralement, il n'y en a pas un qui a entièrement raison et un qui a entièrement tort. Chacun a une partie raison, mais chacun a aussi des torts. Et si chacun veut avoir raison, ça sera la guerre. Mais si chacun reconnaît ses torts, alors ce sera la paix. Alors on peut se comprendre. À ce moment-là, on peut se respecter et on évite les conflits, les bagarres, les guerres et les violences inutiles, liées les violences qui cassent non seulement notre société, mais notre propre vie, parce qu'elles cassent notre cœur. Nos violences nous apprennent à parler dans la paix, à écouter l'autre avec un cœur ouvert, à accueillir l'autre pour ce qu'il est vraiment, sans le juger, sans le condamner, avec empathie, en rentrant dans son cœur, en voyant ses qualités, en voyant les bonnes choses qu'il cherche, même s'il ne les fait pas encore. La non-violence nous apprend à être bon envers l'autre, et c'est ce qui permet de mettre l'unité entre nous. Jésus nous l'a dit, cherchez la vérité. La vérité vous rendra libre. Nous arrivons à la fin de ce temps de carême. Nous avons dû changer notre cœur. Il nous reste encore quelques jours. Mais même après le carême, après cette fête de Pâques, est-ce que nous serons capables de parler entre nous en vérité, en voyant les problèmes, en voyant ce qui ne va pas, en voyant les injustices, en voyant les conflits, mais en essayant de les regarder pacifiquement, dans la paix, en parlant tranquillement, en le partageant avec les autres calmement. Mais pour cela, il faut le vouloir. Il faut s'y préparer. Même si dans notre vie, on nous a déjà insultés, on nous a blessés, on nous a fait du mal, et que donc nous sommes comme écorchés. Malgré tout, nous cherchons à avoir la patience. La patience envers les autres, mais d'abord la patience envers nous-mêmes. Jésus lui-même a été obligé d'être patient avec ses apôtres, avec la foule qui ne comprenait pas. Il a même été obligé de se plaindre quand il disait à ses apôtres « Combien de temps encore je vais devoir rester avec vous et vous supporter ?» Mais Jésus les a supportés. Il a été patient. Il a même supporté quand on l'a frappé. Mais en faisant réfléchir celui qui le frappait, en lui disant « Pourquoi tu me frappes ? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ?» Il s'est défendu, il a obligé l'autre à réfléchir, à rentrer dans son cœur, à reconnaître sa méchanceté et son injustice. Cela demande beaucoup de courage, mais c'est le chemin de conversion que Jésus nous a proposé pendant ce temps de carême et qu'il nous propose pendant toute notre vie. Changer notre vie, changer nos relations avec les autres, pour changer notre société, mais d'abord changer notre cœur. Et pour terminer cette réflexion, nous écoutons ces paroles de Martin Luther King dans un livre qui s'appelle « La force d'aimer ». Quand on les frappait parce qu'ils luttaient pour leurs droits, les droits civiques, les droits des Noirs aux États-Unis. Il disait, nous disons à nos adversaires les plus méchants, ceux qui nous frappent, qui nous mettent en prison, vous pouvez nous faire souffrir. Et devant ces souffrances, Nous n'allons pas répondre par la méchanceté, mais nous allons répondre par notre courage, notre capacité de supporter la souffrance sans nous venger. Vous avez la force physique, vous nous frappez, mais nous, nous allons répondre par la force de notre cœur, par la force d'âme. Frappez-nous autant que vous voulez, mais nous, nous continuerons à vous aimer. Vous pouvez nous frapper, vous ne pouvez pas nous empêcher d'aimer. Parce que, dans notre conscience, nous ne pouvons pas obéir à vos lois injustes qui nous empêchent de vivre librement. Nous ne pouvons pas participer au mal que de la société où il n'y a pas d'égalité, parce que notre cœur nous dit qu'il faut chercher l'égalité, chercher le bien, chercher à agir ensemble. Mettez-nous en prison, nous nous continuerons encore à vous aimer. Envoyez vos militaires et vos servis, même en pleine nuit, dans nos communautés, pour nous frapper avec violence, nous laisser à moitié morts, nous nous continuerons à vous aimer malgré tout. Mais soyez sûrs que nous continuerons à vous aimer jusqu'à ce que vous soyez fatigués de nous frapper, parce que nous sommes capables de souffrir pour la paix et pour le bien. Et en souffrant, en supportant vos coups sans nous venger, un jour nous gagnerons la liberté. Et nous gagnerons la liberté pas pour nous tout seuls. Nous lancerons un appel, pas à vos oreilles, mais à vos cœurs, à vos consciences, parce que nous aurons réussi pendant ce temps à vous convaincre, à vous montrer la bonté et l'amour. Et alors nous serons vainqueurs, et notre victoire sera une double victoire. La victoire pour nous, mais aussi la victoire pour vous. L'amour, c'est la force la plus grande du monde et celle qui peut durer jusqu'au bout. Cette force qui donne la paix a été vécue d'une façon extraordinaire et comme un exemple dans la vie de Jésus-Christ. La force de Jésus-Christ, c'est la force la plus puissante qu'on peut trouver dans le monde pour le bien de tous les hommes, pour la paix et la sécurité. C'est la force d'aimer malgré tout, même quand on nous frappe, même quand on nous fait souffrir. Et c'est pour cela que le pape François, à l'occasion d'un congrès qui s'appelait La non-violence et la paix juste. La non-violence et la paix juste. Une contribution pour comprendre la non-violence et s'engager dans la non-violence de la part des catholiques. Le pape François donc encourageait l'engagement des catholiques pour un témoignage actif de non-violence comme une action efficace pour gagner la paix. Et c'est dans ce sens que le pape François demandait un désarmement total. Pas seulement arrêter d'utiliser les armes pour tuer, mais arrêter de vendre les armes, arrêter de produire des armes, chercher le développement des pays en rejoignant le fond du cœur des gens, en rejoignant leur âme, en construisant des ponts et pas des murs, en luttant contre la peur, en cherchant un dialogue ouvert et sincère. Le pape nous encourage à pratiquer le dialogue, un vrai dialogue dans le pardon et dans la miséricorde. C'est cela que nous devons chercher d'abord à comprendre et ensuite à vivre. Frères et sœurs, nous allons donc terminer notre méditation sur les béatitudes que nous avons commencé depuis hier par cette dernière béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Ceux qui ont faim et soif, pas seulement de nourriture, pas seulement dans leur ventre, mais dans leur cœur. Ceux qui ont faim et soif de justice, Dieu va les rassasier, Dieu va remplir leur cœur. Nous le voyons bien chaque jour. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'injustice autour de nous, beaucoup de mensonges, beaucoup de corruption. On est injuste envers les hommes et les femmes, surtout envers les petits, les enfants, les pauvres, les handicapés. On est injuste aussi envers la terre, la création que Dieu nous a donnée. On la salit, on la vole, on la brûle, on la tue. On détruit la terre, les plantes, les animaux. Nous sommes injustes envers nos enfants. Nous sommes injustes envers les hommes qui viendront après nous sur cette terre. Déjà, dans la politique, il y a trop de choses cachées, de choses dont on a honte ou qu'on en fait en arrière. Il y a trop de problèmes d'argent, il y a trop de corruption dans le pays, mais aussi trop de paresse pour ceux qui sont responsables. Trop de favoritisme, ce qu'on appelle l'ethnocentrisme, on aide seulement les gens qui parlent sa propre langue ou même sa propre religion. On aide ses propres parents. Beaucoup de gens souffrent dans notre société à cause de ces injustices. Et après, il n'y a plus de paix. Les jeunes n'ont plus de travail. Les malades ne sont pas soignés. Et souvent, nous cherchons des excuses. Nous disons, c'est pas de ma faute. Je suis pas président, je suis pas député, je suis pas maire. Je n'y peux rien. Alors que tous nous pouvons faire quelque chose là où nous sommes. Tous nous pouvons chercher le bien, lutter contre les injustices dans notre famille, dans notre quartier, dans notre travail, là où nous sommes. Au moins faire les petites choses que nous pouvons. Parce que les petites choses, en s'ajoutant, transforment la société. Ce sont les petits ruisseaux qui font des grandes rivières. Ce sont les petits termites qui, en se mettant ensemble, construisent des grandes termitières. Et donc, nous n'agissons pas tout seuls, nous agissons ensemble, avec les autres, en commençant tout de suite, sans nous décourager, avec patience, dans les petites choses. Personnellement, mais aussi dans les différents groupes, les associations, les amicales, les ONG, toutes les organisations qui existent. Il y en a beaucoup autour de nous. Il y en a beaucoup qui travaillent pour les droits de l'homme. Mais est-ce que d'abord nous-mêmes, nous avons vraiment soif de la justice? Est-ce que nous cherchons la justice? Nous arrivons au bout de notre méditation, mais nous essaierons personnellement et ensemble avec nos familles de continuer à méditer les autres béatitudes. Heureux les miséricordieux, ceux qui ont pitié des autres, ceux qui font tout pour aider ceux qui souffrent, ceux qui savent pardonner, non pas une fois, mais 70 fois, 7 fois, comme le disait Jésus à Pierre. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Jésus disait, si ton œil est pur, tout ton corps est dans la lumière. Heureux ceux qui construisent la paix, ce sont eux les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ce ne sont pas seulement les chrétiens, ce sont tous les hommes qui cherchent la paix. Si tu cherches la paix, tu es enfant de Dieu. Et si tu ne cherches pas la paix, même si tu es chrétien, même si tu es baptisé, tu n'es plus enfant de Dieu, parce que tu ne te conduis pas comme un enfant de Dieu. Et l'autre béatitude, heureux ceux qui souffrent à cause de la justice, le royaume de Dieu est à eux. Ceux qui souffrent et qui acceptent de souffrir à cause de la justice pour que la paix arrive. Merci Seigneur d'être à côté de nous dans toutes nos difficultés. Merci de nous avoir choisis pour être les prophètes d'aujourd'hui. Dieu notre Père, le compatissant, le miséricordieux, nous te supplions, quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de nous relever, de reprendre vie, de chercher la paix, de refuser la violence et la méchanceté, par la force des souffrances, de l'amour et de la mort de ton Fils bien-aimé, qui nous a sauvés et qui a sauvé le monde. Lui, notre frère, pour les siècles des siècles. Amen. Et déjà, bonne fin de la semaine sainte. Bonne fête du jeudi saint, du vendredi saint, du samedi saint. Bonne fête de Pâques pour ressusciter à une vie nouvelle et pour créer un monde nouveau. Yeah.